France Culture.
Vous écoutez France Culture. Toute œuvre d'art est un crime non perpétré. Théodore Adorno. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre contre le noir, tout contre, en ce samedi soir. Mauvais genre qui évoquera en première partie d'émission la faramineuse exposition du MacVal, consacrée aux faits divers et à l'art contemporain, scènes de crime, corps du délit, objets létaux, tels que revus par les créateurs actuels. Jean-Patrick Manchette ensuite, grâce à la somme que vient de lui consacrer chez Gallimard, Nicolas Le Fleck, chronique en second temps d'émission, signée Élise Lépine et Paloma Hermina Hidalgo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre, contre le noir, tout contre, hein, un clin d'œil à Sacha Guitry. Ce soir, effectivement, nous allons dans un premier temps déambuler dans cette exposition que tous les amateurs de Mauvais genre doivent connaître, qui est donc au MacVal et qu'il faut aller visiter d'urgence. Et en deuxième partie, on évoquera quelqu'un qui, sur la question du noir, a eu beaucoup de choses à dire et à faire, c'est Jean-Patrick Manchette. Grâce à vous, Nicolas Le Fleck, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à Mauvais genre. Vous publiez chez Gallimard donc un travail universitaire que vous avez entièrement réécrit pour la lecture et surtout pour la lecture à la fois des amoureux de littérature, de ce que c'est qu'un texte, comment construire un texte, le positionnement de l'écrivain vis-à-vis du monde et vis-à-vis de la littérature elle-même, donc qui s'appelle Jean-Patrick Manchette, écrire contre quoi, on le verra, puisque c'est le propos qui structure tout votre travail. Je serai en compagnie, bien évidemment, d'Élise Lépine.
Bonsoir.
Comment va-t-elle ?
Très bien.
Et de quoi va-t-elle nous parler en chronique ?
Moi, je vais parler de Jean-Christophe Granger.
Ah, tiens donc, qui voilà. Fit sa première radio à Mauvais genre à l'époque des Rivières pourpres. Il y a de cela, c'était au siècle dernier.
Au siècle dernier, on avait adoré les Rivières pourpres. Et on adore sa nouvelle sortie.
Absolument, oui, vous allez nous en parler. Et Paloma Hermine Hidalgo, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec vous, de quoi s'agira-t-il ?
On évoquera Visqueuse, un roman entre splendeur et répulsion de la dissidente Morgane Cossarieux.
Très bien, mais Morgane Cossarieux, oui, absolument, qui est tatoueuse à Berlin, si mes souvenirs sont bons.
Tatoueuse de son
état. Un jour, on ira à Berlin pour se faire tatouer par Morgane Cossarieux. Mais tatouer quoi ? On ne sait pas encore. Laurent Polleret et moi, on est en discussion, on évoque tout cela. Alors, dans un premier temps, évidemment, on va se rendre au MacVal. Alors le MacVal, pourquoi ? Eh bien, je le répète, cette exposition fait divers, une hypothèse en 26 lettres et 5 équations. Donc comment les auteurs, les écrivains, enfin surtout les artistes contemporains ont-ils réfléchi à la notion de fait divers ? L'ont-ils illustré ? Se sont-ils laissés emporter par, ces espèces d'événements soudains, violents, brutaux et terriblement lyriques ? Alors on y trouve bien sûr les œuvres de Monory, d'Arroyo, de Pierre Huyghe et de énormément d'autres auteurs. On est reçu là par Nicolas Surlapierre, le commissaire de l'exposition, et on verra apparaître Xavier Boussiron.
Bonjour.
Une voix fréquemment entendue dans Mauvais genre et qui donc est là pour ce qu'il a proposé, donc le bénitier de l'impensable, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça, oui.
On va revenir sur le bénitier de l'impensable, mais avant, présentation de l'exposition avec vous, donc Nicolas Surlapierre. Une sorte d'abécédaire des faits divers, 26 mots-clés, 5 axes de réflexion. Comment en êtes-vous venu d'abord à vous intéresser sur le fait divers, quoique le fait divers est omniprésent depuis quand même quelques siècles. Mais comment en êtes-vous venu à concevoir cette exposition et à l'orienter de cette manière ?
Alors, je suis venu vers le sujet du fait divers pour différentes raisons, parce que je suis un conservateur et un curateur un peu étrange, c'est-à-dire que j'ai un rapport aux œuvres, un rapport de lecture en fait. Je suis parfois, d'ailleurs ça me complexe un peu, j'ai presque un rapport plus de lecteur que visuel aux œuvres. Et donc je m'intéresse fondamentalement à tout ce qui est narratif, au processus narratif, et je suis attiré par des œuvres qui justement appellent ce que Franck Castel a appelé d'ailleurs en son temps la spéculation, c'est-à-dire imaginer d'autres solutions possibles à ce qui a été généralement donné. Donc je me suis intéressé aux faits divers déjà pour cette raison, et aussi pour une autre raison un peu plus personnelle. Enfin, je ne sais pas si elle est personnelle, mais en tous les cas, elle, pour moi, elle est intéressante. C'est la lecture de Roland Barthes. Ça fait rire les équipes ici, mais j'essaye de pas toujours parler de Roland Barthes, mais j'ai du mal à ne me séparer de Roland Barthes, même pour le critiquer. Et j'avais été marqué par ce texte, publié en 62, repris après dans les écrits critiques en 64, qui s'appelait « Structure du fait divers ». Et dans ce texte, il y a beaucoup de choses excellentes, et il y a plusieurs points qui m'avaient intéressé, et c'est à partir de ces différents points, hein, qu'on pourra évidemment détailler, que j'ai commencé à imaginer une exposition possible sur le fait divers. Et ça m'a complètement habité pendant plusieurs années, parce que c'est un projet que j'avais de longue date. Hein. Je voulais la proposer dans un cadre plus large, pratiquement, qui aurait commencerait au moment où la presse et où on a défini le fait divers, hein, c'est-à-dire à peu près vers 1838-1839. Et puis, progressivement, aller jusqu'au 21e siècle. Ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Mais j'ai senti qu'au Macval, pour des raisons aussi de logique de collection, il y avait une prédisposition, peut-être des œuvres qui pouvaient nous aiguiller sur la piste du fait divers. Et la première d'entre elles est évidemment, hein, d'ailleurs, c'était l'exposition inaugurale il y a un peu moins de 20 ans, qui était l'exposition Jacques Monory, où le fait divers est tout à fait cardinal dans son œuvre.
Xavier Boussiron, le fait divers, est-ce que c'est quelque chose, c'est un ingrédient qui vous est familier, ou est-ce que là vous avez brusquement été pris par la question et puis vous avez inventé ce bénitier? Mais quel rapport avez-vous avec le fait divers?
Le fait divers, c'est une source d'inspiration constante, parce que quand on est face à un fait divers, on est pile poil entre l'anecdote la plus banale qu'à voir avec le mal, sans doute souvent, ou bien en tout cas avec le péché peut-être. Et de l'autre côté, il est toujours empreint de la mythologie la plus totale, in progress, en train d'apparaître comme ça. Donc on est vraiment entre la banalité et l'épiphanie. Il y a des grands faits divers qui récents même, que ce soit Natacha Campouche, que ce soit... Je me souviens plus du nom du pauvre gamin qui avait été jeté du haut de la terrasse de... Je crois que c'était de la National Gallery à Londres par un dément, un jeune dément français qui s'était rué sur une famille et avait pris un môme dans un landau et l'avait mis par-dessus bord. Bon, c'est une source d'inspiration toujours assez théâtrale, on dira. Et en même temps, l'art est toujours empreint de faits divers. Moi, j'ai jamais vu une seule œuvre d'art depuis que je m'y suis intéressé qui n'était pas sous-tendue d'un crime singulier, on dira. Peut-être un crime de l'esprit, mais d'un crime singulier. Donc savoir avec tout ça, savoir avec la littérature, savoir avec De Quincey, savoir avec la théâtralité aussi. Et n'importe quelle peinture est de l'ordre du spectacle. Et le fait divers, c'est peut-être un spectacle mental pas très très bien géré au niveau de l'intrigue, on dira.
Élise Lépine.
Comment est-ce que vous expliquez l'un ou l'autre l'attrait très contemporain pour le fait divers? Parce que j'ai quand même l'impression d'une vraie tendance de fond en ce moment, avec un attrait pour le cold case, un attrait pour le true crime, voilà, le fait qu'on puisse organiser des expositions comme ça qui attirent vraiment beaucoup de public. Est-ce que c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, ou est-ce qu'en ce moment précisément, on a besoin plus particulièrement du fait divers?
Pour répondre d'une manière plus générale, je pense que ça revient à ce que je disais un petit peu en introduction, c'est-à-dire qu'il y a cet attrait pour le narratif, cette reprise du narratif. D'ailleurs, on l'utilise dans nos éléments de langage constamment. Ça, je pense que c'est la première chose, mais c'est pas tant ça le plus important. Ce qui me paraît le plus important, c'est qu'on est dans un monde tellement complexe que finalement il y a de l'inexplicable et il y a une complexité qui semble répondre à ce monde complexe. Une sorte de complexité qui répond à la complexité. On a envie non pas de choses simples, mais de choses différentes, de choses qu'on n'arrive pas bien à comprendre, qui viennent de très loin. Et je trouve aussi, et à mon avis, c'est ce qui peut être l'intérêt du fait divers, c'est qu'il y a ce principe d'incertitude. C'est bien sûr, le monde est complexe, mais ça crée une incertitude. Or, un des principes du fait divers, c'est cette incertitude. C'était aussi le fait que, si autour de ce micro, si on discute de tel ou tel fait divers célèbre, on aura peut-être une interprétation différente du fait divers, avec cette idée que j'aime beaucoup, qui est le changement d'opinion. Enfin, on arrive dans les discussions en reprenant des éléments, et ça c'est étonnant. Autant politiquement c'est très difficile, je ne crois pas finalement à la conviction fondamentalement, mais dans le fait divers, il y a quelque chose qui est intéressant pour renverser l'opinion de l'autre, pour apporter des éléments contraires, et aussi parce qu'on peut se faire sa propre matière d'une manière assez belle et assez juste. C'est pas une matière, à la fois ça a l'air très complexe, c'est pas une matière très complexe, c'est le paradoxe. À la fois on est dans un monde complexe, mais avec une matière assez simple, même si elle est irrésolue. Et je trouve que ça crée une tension passionnante.
Oui, et puis peut-être que ça vient contrer une espèce de manière assez caricaturale dont le monde, notamment politique, est géré. C'est-à-dire que d'une manière extrêmement manichéenne, au mauvais sens du terme, qu'il soit très blanc ou très noir, ou qu'il n'y ait pas... tu parles d'incertitude, moi je dirais l'impureté. Cette impureté, en fait, on est tous concernés par cette impureté. On est tous concernés par la passion triste, et le fait divers est une espèce de jukebox et de parc d'attractions permanent de la passion triste, qui est parfaitement humaine. Et le mal est humain. Et c'est vrai qu'on n'arrive jamais à bien raisonner cette affaire. Le fait divers est toujours le... Moi, je pense que c'est le... comme une partie de la contre-culture et de l'underground, mais ce serait une espèce de contre-culture psychique, comme ça.
Alors, des faits divers, on les repère depuis, mettons, le Moyen-Âge finissant, le XVIe siècle, avec les canards sanglants, qui étaient des petites feuilles que les colporteurs allaient vendre dans les campagnes, dans les villes, et qui racontaient des faits divers, mais des faits divers fabuleux. Les animaux à trois têtes, les enfants avec quatre yeux, les comètes, les bizarreries, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, avec les séries ou toutes les émissions, éventuellement le magazine télévisé sur les affaires criminelles. Donc, ce qui fait quand même cinq siècles de faits divers. Il s'en est passé des choses. Alors, il faut, au sein de cette extraordinaire capitale d'événements historiques, et essayer de faire un tri. Donc, dans cette exposition, Nicolas Surlapierre, on est quand même confronté beaucoup à ce que disait Jean-Xavier Boussiron, au côté théâtral. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la scène de crime. L'expression dit bien les choses, c'est-à-dire qu'une sorte de véritable théâtralité de l'événement criminel, comme une scène. Alors il y a des acteurs qui sont la plupart du temps défunts, des traces, des objets, des signes, des choses. Donc il y a cet aspect-là. Puis alors, faut jouer avec ça. Donc, comment on joue? Est-ce qu'on le reproduit? Est-ce qu'on le travaille? Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on crée sa propre scène? La théâtralité, d'abord, du fait divers. Comment est-elle représentée, Nicolas Surlapierre, dans cette exposition?
Je crois qu'elle est représentée dès le début de l'exposition, dès l'équation à une inconnue, c'est-à-dire au nom de la loi. Je voulais vraiment qu'on place les visiteuses et les visiteurs dans l'irruption sur la scène de crime. Et au même titre que des inspectrices et des inspecteurs, ils arrivent sur une scène et c'est la sensation qu'on a. On arrive et on découvre un désordre. Et dans ce désordre, il y a des indices. Et l'autre point qui est lié à la théâtralité, je suis assez fasciné au niveau curatorial par l'idée, non pas tout à fait de transformer le Macval ou en tous les cas l'exposition Faits divers en période Rooms, mais avec cette idée du diorama. C'est pour ça que c'est pas tout à fait un hasard qu'on a cette belle série de photos de Corinne Maybots qui reprend les maisons de poupées et les dioramas de Francis Lee Glessner, où justement tout est là. En fait, son idée, c'est que lorsque il y a un crime, principalement un crime, lorsqu'on arrive, les preuves, les évidences, elles sont caché quelque part dans les objets, dans finalement ce qui reste de la scène de crime, peut-être même aussi dans la position du cadavre, dans une incongruité. Et c'est cette incongruité, ce mélange d'incongruité et aussi de sciences assez précises qui m'intéressait particulièrement. Et j'aimais bien replacer cette reconstitution. Je suis assez fasciné par, bien sûr, le diorama, mais aussi la reconstitution, mais aussi dans ce que le diorama a de... je vais dire un petit peu rétro, un petit peu démodé. Il y avait une belle exposition sur cette question, la relation du diorama à l'art contemporain, qui m'avait pas mal marqué. Et ça me plaît, comme si finalement le fait divers était l'occasion de mettre une certaine partie de l'art contemporain dans un vivarium et d'observer ce qui se passe dans ce vivarium un peu théâtral, un peu ambigu qu'est l'exposition.
Il y a une hiérarchie des faits divers. Certains sont devenus des véritables légendes urbaines ou rurales. D'autres sont à peine connus. Il faut vraiment aller dans des entrefilets de presse pour les retrouver. Alors, quels sont les faits divers importants, les affaires, les cas qui sont évoqués ici, Nicolas Surlapierre, et qui ont peut-être plusieurs fois intéressé les créateurs qui ont travaillé dans cette exposition?
Très certainement, et c'est pas tout à fait un hasard qu'on ait fait appel à l'œuvre de Nicolas Dauban. Enfin, parmi les faits divers, il y en a deux selon moi, et donc à Xavier Boussiron, il y a deux faits divers marquants. D'une part, par rapport à une culture, et aussi parce que je voulais créer, et je reviendrai sur la part de la magie aussi dans le fait divers et ce qu'on a appelé le manin quotidien. Mais il y avait donc les Sœurs Papin. Ça, c'est évident, je voulais absolument que les Sœurs Papin trônent comme des anges du bizarre sur cette exposition, des anges affreux, terribles, et notamment parce qu'ils sont liés à la fois, ils sont acculés, elles sont acculées à ce crime, et aussi à cette pulsion scopique, et détruire la pulsion scopique. Donc pour moi, les Sœurs Papin étaient tout à fait essentielles. Et l'autre affaire, mais Xavier en parlera évidemment, c'est l'affaire Grégory. Pour des curateurs de ma génération, l'affaire Grégory, c'est quelque chose d'absolument cardinal, en fait, dans notre culture. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de résolution à cette affaire et qu'on est constamment, régulièrement remis en question. Justement, je parlais d'incertitude, mais cette incertitude, elle revient. C'est quelque chose un peu étrange. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des faits divers qui sont très célèbres, qui sont très, j'allais dire, plébiscité par les artistes, et puis d'autres au contraire, dont l'affaire Grégory, qui sont assez peu relatées par les artistes, comme s'il y avait une sorte de frilosité par rapport à un sujet, et particulièrement l'affaire Grégory. Et je trouve que la section consacrée un peu comme une chapelle, avec un côté un petit peu étrange, une sorte de cérémonie un peu étrange, est tout à fait réussie dans ce domaine. Mais c'est une des sections, enfin, en tous les cas, une partie de l'exposition qui nous a donné le plus de mal, non pas dans l'accrochage, non pas dans la pensée, mais trouver des œuvres. Parce qu'effectivement, l'idée, c'était qu'on alterne dans cette exposition des œuvres qui seraient plutôt sur, on va dire, le fait divers comme archétype et le fait divers comme illustration. Et on est constamment balancé. Et ce que je voulais aussi beaucoup, c'est-à-dire déjouer la pulsion scopique. Finalement, il y a évidemment des scènes de crime, parce que s'il y a une hiérarchie, pour reprendre ce que vous, votre question ou ce qui est induit dans votre question, s'il y a une hiérarchie dans le fait divers, très certainement le crime est le plus important. Et d'ailleurs, je voulais pas qu'on écrase complètement l'exposition sur le crime, même si c'était un peu difficile. Pourquoi je voulais pas qu'on l'écrase? Tout simplement parce qu'il y avait eu déjà cette exposition qui s'appelait Crime et châtiment, et je voulais pas revenir trop sur cette question. Je voulais montrer autre chose, et progressivement amener le visiteur dans des équations de plus en plus complexes, de plus en plus insolubles, à comprendre qu'il y avait quelque chose qui nous dépasse dans le fait divers, une puissance qui n'est pas simplement une puissance de révélation, une puissance apocalyptique, mais véritablement ce qui a été théorisé en relation au fait divers, c'est-à-dire le manac quotidien. Il y a une sorte d'esprit qu'on va retrouver. Je vais citer Barthes, mais Barthes, dans son texte que j'ai cité, dans la structure du fait divers de 62, dit « Un dieu rôde derrière le fait divers ». Et je crois que cette phrase, elle est essentielle. Moi, c'est pas une question de dieu au sens, on pourrait même des dieux et des déesses rôdent derrière le fait divers. Pour moi, ce qui est assez extraordinaire, donc il y a cette espèce de tragique, c'est-à-dire on envoie un signe du destin dans le fait divers. Si vous voulez, votre vie peut changer si vous prenez à gauche et à droite, et ça tous les jours. Voilà, ça c'est une chose extrêmement importante, un sens du fatum. Et j'allais dire, dans une façon un peu inexplicable mais qui m'intéresse énormément, je crois à une sorte de polythéisme comme ça, d'esprit qui nourrit et qui nourrissent nombre des créations.
Nicolas Surlapierre, on est à la verticale, elles sont au-dessus de nous comme des divinités ou comme des démons qui semblent veiller sur l'exposition. Les Sœurs Papin, on peut dire quelques mots de l'œuvre qui est derrière nous?
C'est une œuvre donc de Nicolas Dauban, c'est une œuvre qui est en deux parties. Donc il a repris, il y a deux photos qui sont publiées au moment de l'affaire des Sœurs Papin, c'est-à-dire à partir de février 1933, et il prend la photo avant la crise de folie. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, Lacan va parler des Sœurs Papin, il va comparer les deux photographies. Là, elles sont apprêtées sur des personnes qui ont, on sent la photo un peu de prestige. Et après, on voit le travail de la fureur qui s'est déclenchée, et aussi la, le caractère de sidération par rapport à ce qui s'est passé. Et Nicolas Dauban, par un procédé assez complexe, je ne veux pas détailler, mais a travaillé avec une sorte de limaille de fer. Il dessine à partir en positif, négatif avec des limailles de fer. Évidemment, la limaille de fer tombe sur le sol. Hein, c'est pour envoyer quelque chose qui le passionne. Hein, c'est comment on lime les barreaux de sa propre prison mentale, hein, pour s'échapper. Et il y a quelque chose aussi, reprenant la belle expression de Genet, la liberté va se conquérir par les toits, hein, et non pas dans la rue, mais par les toits. Et donc, on va partir par les toits. Donc ça, c'était une première chose. Mais surtout, ce qui m'intéressait, bien sûr, je connaissais cette œuvre, c'est le rapport qu'il faisait avec la survivante. Il y a deux sœurs, hein, Christine, hein, qui meurt en 1937, et Léa Papin, qui est libérée, qui fait 10 ans de prison, qui est libérée en 1943, et qui devient femme de chambre dans des grands hôtels de la région autour de Nantes. Et il va trouver sa sépulture. Et à partir de là, toute une aventure naît, notamment sur sa sépulture, avec la création d'un objet fétiche, évidemment, qui est un objet qui m'amène sur le sens même de l'exposition, c'est-à-dire il crée un couteau à pain à partir d'un arbre qu'a poussé sur la tombe, et évidemment il reprend dans pain, on n'entend pas pain, et certains metteurs en scène et certaines interprétations de Jean Genet, notamment Les Bonnes, qui reprend l'histoire de l'affaire Papin, ont relaté cette idée que le mot qui aurait déclenché la fureur, c'est « il n'y aurait pas de pain pour monsieur », qui aurait été pris comme une insulte sur leur patronyme et qui aurait déclenché la fureur. L'histoire est un peu différente, mais et j'aimais beaucoup cette pièce parce que toute l'exposition est travaillée par ce travail sémantique. C'est pas tout à fait un hasard qu'on ait travaillé sur un abécédaire, qu'on ait travaillé pour chacune des équations sur des expressions idiomatiques pour montrer que c'est un travail du mot, hein, et que l'interprétation vient aussi de la façon dont on utilise le mot et que le mot peut déclencher la fureur et peut-être peut déclencher la solution.
Alors là, en face de nous, Nicolas sur la pierre, il y a la galerie des bustes des criminels, des serial killers cannibales. Là, on peut en dire quelques mots aussi, puisqu'on parlait des divinités qui semblent un petit peu du polythéisme criminel du fait divers. Là, on a quand même l'Olympe.
Oui, on a l'Olympe. Alors, je suis un peu embarrassé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres que je ne puisse pas regarder dans l'exposition. C'est une des seules œuvres, alors que... Pour les auditrices et les auditeurs, je vais les décrire, c'est des portraits. Oui. Alors, parfois, on dit qu'il y a une certaine étrangeté. Enfin, on se dit, tiens, les dents sont peut-être un peu visibles. Certains portraits s'effacent un peu. Ils ne sont pas tous identiques. Mais c'est une œuvre qui, pour moi, est insoutenable. Voilà. Alors que pourtant, si vous n'avez pas le cartel, si vous n'avez pas l'explication, qu'il s'agit de criminels anthropophages qui ont dévoré leurs victimes, il n'y a rien de brutal et de choquant. Et dès que vous avez cette information, ce sous-titre à cette œuvre, ça devient pour moi quelque chose d'insupportable. Et c'est très étrange parce que j'avais lu il y a quelques années la nouvelle de Tennessee Williams qui s'appelait Le Boxeur Manchot, où justement c'est une nouvelle extraordinaire parce que dans Le Boxeur Manchot, c'est presque une séduction, il comprend que son masseur kinésithérapeute va finir par le dévorer. Et il accepte comme un geste d'amour fondamental de se faire dévorer. Et que la dévoration, c'est le rôle que ça a dans l'érotisme. Mais là, cette dévoration-là, elle est insupportable. Et c'est pour moi une des œuvres. Alors chacun, on a notre œuvre au nid dans l'exposition, parce qu'il en faut. Et pour moi, c'est certainement une œuvre, non pas que je déteste, et c'est pas contre l'artiste, bien sûr, hein, qui est Claire Danzer, mais véritablement, j'ai beaucoup de mal à la regarder.
Élise Lépine.
Mais comment est-ce que vous expliquez la beauté du fait divers, par ailleurs ? Parce que on a traversé l'exposition, j'ai vu des choses très belles, des peintures, des installations. Comment est-ce que vous expliquez que ça déclenche aussi, malgré cette cruauté, cette horreur, quelque chose qui touche à la grâce et à la beauté ?
Effectivement, dans l'exposition, on a voulu faire très attention, non pas esthétiser le fait divers, mais effectivement, il y a des œuvres d'une grande beauté. Pour revenir à l'affaire Grégory, je trouve... Xavier va devoir se boucher les oreilles, mais par exemple, le Bénit et l'Impensable, c'est une très très belle œuvre. Elle est à la fois perturbante, sensuelle, elle est à la fois très juste aussi, avec cette eau qui échappe des mains, parce que finalement, ce bénitier ne peut pas retenir l'eau, et avec aussi cette Vologne probable qui fait face à Joël Brice, avec lui, cette ophélisation du petit Grégory, regardant les nymphéas de Monet. Et on a on touche à une beauté incroyable. Et pourtant, on est dans quelque chose d'insoluble, d'effroyable. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas sûr que ce soit le fait divers qui produise de la beauté, parce qu'on a beaucoup d'œuvres aussi qui, sur le fait divers, j'ai exclu d'ailleurs des œuvres que je trouvais un peu mochardes. Parce qu'il y en a, en fait. J'ai horreur des trucs un peu mochards, moi. Et c'est un reproche qu'on pourrait me faire, mais je l'assume complètement. Parce que je voulais qu'il y ait une certaine beauté, comme il y aurait une certaine beauté du crime, ou en tous les cas, un rapport à l'image, à l'esthétique. C'est une appréhension de l'image et de l'acte. Mais je pense qu'on aurait pu faire la même exposition en se disant, mais c'est quelque chose de beaucoup plus bricolé, moins léché au niveau esthétique. Ça, c'est un choix. Mais peut-être que vous avez raison, hein, probablement. Il faudrait que je réfléchisse, mais je n'ai pas de réponse. J'ai des réponses par œuvre, avec des esthétiques très différentes. Et l'œuvre qui a quand même déclenché cette pulsion chez moi de vouloir faire, au-delà, parce qu'il y a quand même des œuvres qui ont déclenché une pulsion de faire cette exposition, c'est l'œuvre de Pierre Huyck que j'ai trouvée à l'époque, The Third Memory, d'une grande beauté plastique. En tous les cas, les deux vidéos, j'ai été médusé par cette grande beauté plastique. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait de la proximité des choses, c'est-à-dire que le criminel, enfin en tous les cas le braqueur, devient le metteur en scène, devient le cinéaste. Il y a ce rapport à l'artiste, il y a ce rapport aussi qui cache aussi le fait de vouloir braquer une banque pour tout simplement que son compagnon puisse achever sa transformation et devenir une femme. C'était un peu Fassbinder dans l'univers d'Edwin Zwackman, enfin dans l'univers froid et glacé d'une photocopieuse. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Mais c'est vrai que le caractère esthétique a joué, non pas par rapport aux faits divers, mais globalement, et je m'en veux, hein, j'aimerais des choses plus pagailles, plus trash, mais ça m'est plus difficile. Je voulais au contraire... Un moment, j'avais même imaginé, c'était pas tant de la beauté que je pensais, je voulais une grande élégance en fait, et qu'on ait la possibilité de se sortir par le sacré de cette exposition et par l'élégance.
Alors nous sommes dans notre déambulation parvenus devant le bénitier de l'impensable de Xavier Boussiron. Alors d'abord, il y a un titre qui fait penser à, je veux dire, une sorte de... dont ces choses s'entrechoquent, c'est à la fois surréaliste et un petit peu... et pieux d'une certaine manière, et c'est donc inspiré par l'affaire Grégory. Racontez-nous alors toute l'histoire, puisqu'on a la chance d'avoir l'artiste avec nous, Xavier Boussiron. Racontez-nous le parcours qui vous a amené à cette proposition.
Ça vient des archives, au début. Chacun, on a des archives et on vit avec nos archives. On vit dans une sorte de paranoïa dans rapport à nos archives. Et j'avais cette photo très connue du petit Grégory qui avait été édité notamment, qui avait été d'abord volé par ce journaliste de Paris Match à l'époque, qui avait pris la photo dans la chambre de Grégory, qui était donc de Grégory Villemain, qui était mort quelques jours avant. Donc tout le monde avait polarisé sur sa figure, en charriant un peu l'affaire, en disant qu'il ressemblait à Michel Platini. Et en fait, ses mains, moi, m'avaient toujours intrigué, parce que ses mains étaient mises dans une position telle... Je ne sais pas si ça vient de la peinture maniériste que j'aime beaucoup, ou bien des primitifs flamands et tout ça, mais je me disais, dans ses mains, il y a quelque chose. Et j'avais découpé les mains, je les avais agrandies, je m'étais dit, mais ça, c'est la forme d'un bénitier, en fait. C'est un bénitier qui amène un message, qui serait une espèce d'annonce, comme ça, d'un drame. Je vous l'accorde, c'est une lecture un peu paranoïaque. Mais je m'étais dit, ça ferait un objet qui parle bien de ce que sont tous ces objets et toutes ces reliques, notamment dans l'art. Si on parle du théâtre, qui serait la grand-messe, c'est vrai que l'art, dans sa variété d'objets, a toujours plutôt à voir avec la relique. Entre la relique et le bénitier, il n'y a qu'un pas. Et entre le bénitier et le fait que n'importe quel artiste est le curé de lui-même, de sa propre chapelle. Donc c'était à l'origine plutôt une pièce qui avait une interrogation, on dirait, liturgique. Mais dans le cadre de cette exposition du fait divers, en effet, ça apporte non pas un éclairage, mais toujours une réflexion sur ce mystère de l'affaire Villemain, qui est quand même c'est comme un crime parfait et ultra bordélique. C'est comme une conspiration dans la bouillasse la plus totale. Hein. C'est comme... au début, je pensais l'appeler aussi, là, mais c'est une autre... C'était la dimension un peu plus... C'était plus le même sujet, on dira, mais je pensais l'appeler la classe ouvrière s'en va en enfer, hein, en réponse à Elio Petri. Mais ça a à voir avec tout ça, en fait. C'est-à-dire que tout ce climat social, familial, social, de se dire que déjà dans une famille, il peut y avoir un problème de lutte des classes absolument totale, aussi bien intellectuelle que psychique, que proprement social et ouvrier, et que ça donne des histoires incompréhensibles au total, parce que Moi, j'ai une théorie qui est complètement idiote, mais je pense que là, que ce soit Christine et Jean-Marie Villemain, ils ont été les apostats de cette famille. Ils se sont écartés, ils sont allés un peu plus haut sur la colline pour s'écarter d'une espèce de malédiction libidinale, en fait, qui est remontée à une génération et demie avant, et de sortir de ce truc-là. Et le fait qu'ils aient voulu en sortir, c'est ça qu'on leur a fait regretter. C'est là où ils ont décidé de sacrifier le pauvre Grégory, qui finalement n'a rien à voir là-dedans, mais qui serait la victime testamentaire d'un espèce de secret complètement foireux, quoi. Et qui est de l'ordre moral, qui est de l'ordre de gens qui ont les pieds un peu en dedans, on dira.
Ce que je voyais par rapport à cette œuvre, c'était la question de ce qu'on a appelé, ou ce qu'on pourrait appeler, c'est-à-dire dans ses mains, évidemment avec une position étrange, dans ce qu'on a appelé le stress héréditaire ou le stress généalogique. C'est-à-dire que dans le fond, c'est justement en regardant ses mains, il y a quelque chose d'un peu étrange. En fait, ce n'est pas des mains posées comme si on regarde les photos d'enfants, des photos classiques, mais la façon dont il serre, dont il en serre, dont il étrangle presque l'auriculaire, c'est tout à fait étrange. Il y a quelque chose qui n'est pas apaisé. Et comment pourrait-on être apaisé dans une famille qui reçoit des lettres, qui reçoit des coups de téléphone anonymes et voilà. Et donc, et aussi une famille, hein, n'oublions pas, il faudrait reprendre exactement la généalogie, hein, mais dont un enfant de 4 ans a été tué, roué de coups. La grand-mère, je crois, a roué de coups un enfant de 4 ans, des générations auparavant, ou l'arrière-grand-mère. Et donc, à mon avis, ces mains, elles traduisent ça. Il y a quelque chose de la préscience, c'est parce que justement, et c'est un thème qu'on a aussi évoqué dans l'exposition, plus généralement, chaque fois qu'on a pu, cette question de la prémonition. Presque jouant d'ailleurs sur un futur antérieur de la prémonition, avec des pièces du passé, ou alors des pièces reconstituées, qui parlent justement de comment on peut comprendre qu'il va se passer une catastrophe. Et notre rôle, nous, c'est non pas de déjouer les catastrophes, on n'a pas ce pouvoir-là, mais de lire les signes.
Nicolas sur la pierre, Xavier Boussiron, merci. Et puis donc, à bientôt pour d'autres aventures, si j'ose dire.
Merci, au revoir.
Oui, à bientôt, merci beaucoup.
Fait divers et rien de plus, un choix de Laurent Polleret. Toujours plus. L'exposition Fait divers, une hypothèse en 26 lettres, 5 équations et aucune réponse, surtout aucune réponse, est visible au Macval jusqu'au 13 avril. Élise Lépine, une œuvre, le souvenir que vous laissez cette exposition.
Le bénitier de l'impensable.
Voilà, absolument. On vient de l'entendre évoqué par son créateur.
Je serais gravé dans ma rétine.
Xavier Boussiron. Nous avons entendu également Nicolas Surlapierre, qui est directeur du Macval et commissaire de cette exposition Fait divers.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
La musique de la Shkoumoun pour ouvrir à notre deuxième sujet de ce soir dans Mauvais genre, Jean-Patrick Manchette. Alors Jean-Patrick Manchette, la Shkoumoun, c'est un film avec Michel Constantin et puis Belmondo. Manchette, lui, Nicolas Le Fleck, il n'a pas travaillé avec Belmondo mais avec Delon.
Effectivement, enfin il a travaillé, enfin pas directement travaillé avec, c'est plutôt Delon qui s'est intéressé indirectement au...
Est-ce que les deux hommes ont échangé, ils se sont vus, se sont rencontrés, parce qu'on imagine quand même un face-à-face assez problématique.
Non, d'après Manchette, ils n'ont absolument pas échangé, les droits étaient vendus à quelqu'un d'autre avant, et puis de fil en aiguille, c'est arrivé vers Delon, mais non, pas d'échange direct.
Dommage, on aurait aimé une correspondance de long manchette. Peut-être qu'un jour on la découvrira. Donc Nicolas Leflaig, vous êtes avec nous pour ce livre qui paraît chez Gallimard, une véritable somme de près de 700 pages. Jean-Patrick Manchette, écrire contre. Alors c'est un travail universitaire et le mot qui compte, c'est le mot contre. Parce que Manchette, la plupart du temps, les écrivains de romans noirs, les écrivains de polars, les enquêteurs, les récits policiers traditionnels n'écrivent pas vraiment avec des postures philosophiques, idéologiques, politiques, souvent particulières. Chez Manchette, on peut dire que dès le départ, il y avait cette espèce d'affrontement. Il y avait une posture de riposte, une posture d'affrontement. C'est quelqu'un qui se positionnait, et pour prendre un mot célèbre, la position de tireur couché, d'un de ses titres, qui se positionnait et qui était là pour tenir la position et faire feu.
Alors oui, et d'abord, c'est écrire contre aussi dans le sens où il s'adosse à une tradition. Manchette, il a cessé de rappeler qu'il avait une écriture référentielle. Donc c'est-à-dire que pour lui, on peut pas écrire en faisant abstraction de l'histoire du roman noir. Donc il s'adosse vraiment à une tradition. Pour lui, c'est celle de l'âge d'or des pères fondateurs du roman noir américain. Donc il va intégrer toutes ces références à son écriture, elles sont vraiment très importantes, c'est en ce sens aussi qu'il va écrire contre le polar. Mais Manchette, c'est aussi un écrivain qui a un éthos un peu dissonant, donc il écrit aussi en opposition à cette tradition-là. Par exemple, si on prend le cas de la série noire, Manchette, il est très attaché à cette collection-là, la série noire, même si, enfin, on pourrait y revenir, il est arrivé par des chemins un petit peu sinueux, détournés vers la série noire, mais en tout cas, il est attaché à cette collection, notamment parce que c'est une collection populaire et qui tient beaucoup à l'idée d'être publié dans une collection populaire. Et dans le même temps, il a conscience d'occuper une position un peu singulière au sein de la série noire parce que, d'ailleurs, dès le début, pour l'affaire Anne Goustreau, on lui a demandé de faire des retouches.
L'affaire Anne Goustreau, donc c'est un de ses premiers romans, transposition de l'affaire Ben Barker.
Voilà, c'est ça. C'est un roman qui a un petit peu perturbé le comité de lecture de la série noire, à tel point que c'est Duhamel qui a tranché. Dans une note de lecture, Duhamel a conscience que c'est quand même un roman un petit peu atypique qui risque de désarçonner les lecteurs de la collection. Mais d'ailleurs, il faut lui rendre hommage. Il dit que l'auteur a du talent et de l'humour, donc il faut tenter l'aventure. Donc, mais Manchette va après, dans le fil de son écriture à la série noire, toujours aller aussi un peu contre les habitudes de la collection pour différentes raisons. Donc, c'est cette dynamique-là, moi, qui m'a intéressé à la fois. Il intègre toute une tradition et à la fois, il s'en détache. Bon, c'est la dynamique aussi de la création artistique qui veut ça.
Mais alors, il a une position à la série noire. Il est arrivé du temps de Duhamel. Après, il a connu Robert Soula. Il y avait quand même la série noire, c'était véritablement un idiome. Il y avait un style série noire reconnaissable à 100 mètres. Il y avait ces fameuses traductions des textes caviardés, traduits approximativement dans un langage totalement imaginaire, un peu pigaleux. Sébastien Rutez a d'ailleurs publié Pas de littérature, un roman qui met en scène justement un couple de traducteur. Et quand Manchette arrive, c'est véritablement lui qui ne démarre pas tout de suite comme ça la série noire, mais qui avait déjà avant tout un périple à la fois intellectuel, politique et littéraire, de travaux un petit peu alimentaires. Quand il arrive à la série noire, pour lui, ça n'est pas une espèce de bénédicte, de baptême comme ça, c'est véritablement un positionnement là. Et donc il va jouer avec. De même que Signac, son ami, ADG, des gens comme ça, il va jouer avec ce qu'est la série noire. C'est-à-dire qu'il va d'une certaine façon l'instrumentaliser et s'en servir pour ses propres stratégies personnelles.
Oui. Alors, par exemple, le manuscrit de l'affaire Anne Goustreau, à l'origine, il n'était pas destiné à Gallimard, à la série noire. Il était destiné à Albin Michel. Manchette l'a envoyé à Albin Michel. C'est sur les conseils de Dominique Horry qui finit par l'adresser à la série noire. Et il y a une sorte, alors c'est Manchette qui dit, une sorte de hasard heureux, même s'il dit que le hasard a bon dos, qui fait que finalement, il atterrit à la série noire et qui s'y trouve très bien, pour les raisons que vous avez évoquées, parce qu'en fait, la série noire va lui permettre de concilier plusieurs choses. D'abord, c'est son envie d'écrire de manière agressive et critique, Ça, le roman noir va lui permettre de le faire. Son attachement à une collection populaire, c'est-à-dire que l'idée d'écrire dans des livres bon marché, pour lui, c'est quand même très important. Et surtout, en fait, ce qu'on peut dire aussi pour ceux qui connaissent pas Manchette, c'est que peut-être à l'origine, lui, il se destinait au cinéma. Ce qu'il voulait, c'était travailler pour le cinéma. Et il explique que, voyant qu'il n'arrivait pas, en fait, à faire ce qu'il voulait, il a il s'est dit, je vais écrire des romans pour la série noire et les droits vont être achetés, ça va être adapté au cinéma.
Et donc, au lieu d'écrire des scénarios dont personne ne veut, il écrit des romans disant ça va devenir des films et donc je pourrais écrire le scénario.
Voilà, et voilà. Ça a très bien fonctionné. Mais il se trouve que ça s'est inversé en fait. Il a compris qu'il était très heureux d'écrire en fait des romans. Et finalement, après, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que il a essayé grâce au cinéma de s'acheter du temps d'écriture en fait pour faire du roman.
Alors on va écouter Jean-Patrick Manchette justement définir ce qu'est pour lui un polar.
C'est un genre de livre qui est, dès ses origines, produit directement pour le marché. Il est produit directement pour être vendu. Il n'est pas produit par quelqu'un qui a un mécène, par exemple, ou qui a des rentes et qui écrit pour l'amour de l'art. Il est écrit pour bouffer. Et dans la mesure où il est écrit pour bouffer, il devient la vérité du roman artistique, parce que le roman artistique aussi est devenu un objet de marché. Simplement, on cache ça, on n'en parle pas, c'est censé être de l'art, c'est censé être noble, le roman artistique, alors que c'est devenu une foire. D'ailleurs, on fait des foires à Francfort et à Nice et ailleurs, y compris pour le roman artistique. Le polar, ça me paraît presque plus franc. Le fait qu'on s'avance en disant « je suis de la littérature alimentaire ». Et ça permet, à ce moment-là, de contourner l'adversaire. Et au lieu d'être un malheureux écrivain d'art qui est traqué par les questions du marché, on est un minable auteur de polar, rien qu'un auteur de polar. Et puis, en secret, pendant qu'on raconte sa petite histoire polareuse avec plein de coups de feu et tout ça, on est en train de travailler sur le texte. Et personne ne le sait.
Jean-Patrick Manchette, face à sa chère machine à écrire, définissant sa stratégie. C'est ça, on a l'air d'être un tâcheron qui fait de la littérature populaire, qui travaille pour le marché et pour bouffer, mais en définitive, en contrebande, on pense et on passe un projet littéraire, un projet idéologique, et on, d'une certaine façon, c'est le cheval de Troie, le polar.
C'est ça, oui, c'est de l'écriture en contrebande. Et ce que Manchette arrive à faire, c'est retourner ça contre, enfin, avec beaucoup d'humilité quand même, parce qu'il a conscience du pouvoir très limité de l'écriture et de sa propre force de feu. Mais en tout cas, essayer de retourner ça contre le marché. Dans un entretien, il dit que c'est cette dictature de la marchandise qui tue le temps et a fait disparaître l'humanité. Donc, il a vraiment cette idée de s'adosser contre le marché grâce à cette littérature alimentaire et d'essayer quand même de dire quelque chose au lecteur. Et c'est pour ça, je pense aussi que Manchette nous parle toujours, parce que le marché se porte bien, on peut le dire. Et Manchette, dans ses romans, essaye aussi de montrer que, finalement, si on prend le cas de Georges Gerfaud, par exemple, qui est le héros du Petit Bleu de la Côte Ouest, qui est l'un des romans de Manchette peut-être les plus lus, Georges Gerfaud, c'est un cadre banal, un homme comme vous et moi qui fuit des tueurs. Mais en réalité, Manchette explique qu'il fuit pas les tueurs, il fuit sa vie de cadre, il fuit ce monde qu'on essaie de lui vendre comme désirable, qui d'un coup lui paraît tout à fait mortifère. Donc oui, cette dynamique conflictuelle avec le marché, elle est vraiment importante, et elle fait que Manchette est aussi toujours d'actualité.
Élise Lépine.
Et vous dites qu'on l'a appelé le pape du néopolar, et c'est vrai, hein, mais est-ce qu'on l'a un peu enfermé dans une définition Manchette, et est-ce qu'on doit finalement revoir la définition qu'on en fait pour peut-être le sortir d'une espèce de cliché qu'on a fait de Manchette.
Alors oui. Alors il y a eu plein d'étiquettes, le père du néo-polar, voire effectivement jusqu'au pape du néo-polar, même si alors.
J'ai peut-être dit moi-même. C'est possible.
Ouais, mais le cas du néo-polar, c'est symptomatique parce que c'est une étiquette que Manchette a forgée lui-même. Mais qui a pas toujours été bien comprise, c'est pas dans l'esprit de Manchette, en tout cas c'est pas vraiment un renouveau très positif, ce serait plutôt une espèce de sous-polar, il dit presque lui qu'il est post-polareux en fait, d'une certaine manière. Donc oui, moi ce que j'aimerais bien montrer effectivement, c'est que alors il y a quelques étiquettes, par exemple le fait d'une écriture froide et sèche. Effectivement, Manchette, il est parfaitement capable de contracter ses phrases. Il peut écrire des phrases très courtes, parfois une écriture à l'os. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer que Manchette, par exemple, est aussi capable de déployer ses phrases et qu'autour de l'os, il y a du muscle. Donc moi, je préfère, par exemple, parler du tranchant du texte pour Manchette, parce que par exemple dans un questionnaire de Proust auquel il a répondu, on lui demande quelle est sa vertu préférée, et il dit la vélocité. Et je trouve que ça correspond très bien à son écriture qui est vive.
Le swing.
Oui.
Jazzophile.
Voilà, donc oui, effectivement, essayez en tout cas de donner envie de lire ou de relire Manchette avec un œil peut-être neuf. Moi, la première fois que j'ai lu Manchette, donc il y a à peu près 20 ans, je l'ai lu quasiment par hasard. J'aimais bien lire du polar, mais je connaissais quasiment rien de Manchette. Enfin, je connaissais même pour ainsi dire rien de Manchette. J'ai eu une lecture totalement naïve de La position de tireur couché. Et j'ai été complètement ébloui par ce texte-là, que j'ai lu vraiment, enfin, qui m'a laissé bouche bée. Au début, il y a un grand vent qui se lève. On le revoit à la fin du texte. J'ai trouvé ça absolument, vraiment saisissant. J'en avais des frissons et d'une certaine manière, je suis encore porté par ce vent-là. Donc j'aimerais bien que des lecteurs aussi ressentent un petit peu ce frisson qu'on peut ressentir face à ce texte très singulier.
Alors un texte vif, tranchant, un texte qui souffle noir, le fameux vent mauvais. On écoute Jean-Patrick Manchette évoquer sa création personnelle, comment naît le polar chez Jean-Patrick Manchette.
Ça met très très longtemps à mûrir, parce que généralement ça part d'une abstraction complète. Je pars pas d'une intrigue ou d'un fait divers ou de personnage, mais je me dis, j'ai envie de dire quelque chose sur le terrorisme, ce que j'en pense, ou je me dis, comme je suis en train de faire en ce moment, enfin depuis 6 mois, 1 an, j'ai envie de parler du cinéma, qu'est-ce que c'est le cinéma, quel effet ça fait, comment ça fonctionne. Et je pars sur une idée comme ça. À partir du moment où je me dis j'ai envie de faire quelque chose qui traite du cinéma, ça ne me donne pas du tout un polar. Alors j'attends qu'il y ait des incidents qui me tirent l'œil, que j'ai un thème d'action que j'ai envie de mélanger avec le thème abstrait que j'ai eu au départ. Mais en revanche, à partir de là, il absorbe tout ce qui me tombe sous la main. Je lis des faits divers, n'importe quel bouquin, je vois n'importe quel film, quelque chose va se détacher de ce que je vois et venir s'agglutiner à mon idée. Et progressivement, il y a une intrigue qui se forme, je commence à avoir des gens et des actions. Et quand tout ça est relié, mais ça se fait tout seul, pour ainsi dire, quand tout ça est relié, j'ai un polar, il n'y a plus qu'à l'écrire, comme dirait l'autre.
Ouais, la célèbre phrase de Racine, la tragédie est terminée, je n'ai plus qu'à l'écrire. Donc Jean-Patrick Manchette évoquant le processus de création. Alors il y a une deuxième partie, là, on a, hélas le volume est d'importance, les Calas le Fleck, mais j'ai trouvé très très passionnante sur le fameux l'héritage behavioriste, c'est-à-dire que bon, on écrit un polar, on écrit un roman, un récit policier. Il y a forcément dedans un personnage à l'âme noire, on descend dans cette âme, il y a toute une espèce d'évocation de la conscience malheureuse, de la conscience négative, voire du diable. Mais Manchette, pas du tout. Manchette voit les choses d'une certaine façon de l'extérieur, le personnage se définit par sa manière d'agir et son comportement, et c'est à partir de là qu'on remonterait vers quelque chose qui serait de l'ordre de la conscience. Nicolas Le Fleck.
Oui, alors, bon, il se méfie indéniablement d'une expression trop simple de l'émotion, de la psychologie, de la psychologie un peu bébête. Et puis surtout, il arrive après Dashiell Hammett et après un certain rapport à l'émotion. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il cesse de rappeler que son écriture est behavioriste, comportementaliste. Après, ce qui est important de dire, c'est d'abord que pour Manchette, c'est pas un maniérisme en fait. C'est-à-dire que pour lui, vraiment, les questions d'écriture, de style, elles sont liées au fond. Il y a une phrase qu'il répète souvent, c'est que la forme n'est pas la forme si elle n'est pas la forme du contenu. Donc, quand il utilise le behaviorisme, c'est avec une intention qui est pas seulement, par exemple, de pasticher toute une tradition. Le behaviorisme, pour lui, c'est le style de la défiance et du calme désespoir. Donc, ça dit quelque chose aussi d'un rapport au monde, d'un rapport à l'individu. Ça invite à se méfier de l'idéologie, aussi de toute une série de choses. Après, moi, ce qui m'a intéressé aussi sur la question du behaviorisme et de l'écriture de l'émotion, c'est de montrer que ça n'est pas parce que Manchette refuse une expression trop simpliste des émotions qu'il refuse l'émotion. En fait.
Voilà,
dans une lettre à Pierre Signac, il dit « j'écris avec émotion ». Alors après, il la cache, il lui fait emprunter des chemins détournés. Donc moi, j'ai essayé de traquer cette émotion-là, de voir comment elle s'exprime sur les corps, de manière...
Il y a un très beau passage sur les lèvres. Ça fait une recension de toutes les lèvres qui apparaissent.
Voilà, c'est ça.
La signification des lèvres chez Manchette.
Voilà, c'est ça, parce que les personnages, à ce moment-là, ne disent rien, on n'a pas leur pensée, mais on a beaucoup de choses sur eux. Puis c'est aussi le cas sur les paysages, par exemple, qui peuvent recueillir l'émotion du personnage.
Pour conclure, Élise Lépine.
Vous disiez tout à l'heure que Manchette se vendait toujours bien et qu'il est resté dans le cœur des lecteurs de Polar. Qu'est-ce qu'on peut lire si on doit découvrir Manchette? Qu'est-ce qui va résonner avec notre époque? Quel titre vous conseillez?
Alors, c'est une question difficile. Beaucoup de choses. Alors, on pourrait Le Petit Bleu de la Côte Ouest, par exemple. Je pense que c'est un bon moyen d'entrer dans l'œuvre de Manchette. Parce qu'on y trouve tout ce qui fait sa singularité. Après, il faut dire que Manchette aussi a beaucoup écrit, par exemple, de chroniques. Il y a des chroniques, les amateurs de polar ne peuvent que se régaler en lisant les chroniques publiées chez Rivage. Les yeux de la momie sur le cinéma, c'est passionnant aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à lire aussi, sa correspondance, ses entretiens.
Un parcours en deux temps, vous lisez d'abord le quarto Manchette roman noir et après vous vous jetez rapidement contre écrire contre Jean-Patrick Manchette, donc la somme de Nicolas Leflec, c'est aux éditions Gallimard. Chronique maintenant dans Mauvais Genre, on commence avec vous, Élise Lépine. De quoi s'agit-il de...
Alors, il s'agit de Sans Soleil, tome 1, Disco Inferno de Jean-Christophe Granger. C'est chez Albin Michel et ça sort, attention, mercredi. Les impatients et impatientes, il faut attendre encore 3 jours, 4 jours. J'avais adoré Le Vol des Cigognes, qui était son premier roman. Et puis, il y en a eu d'autres ensuite que vous avez cités, hein, Le Concile de Pierre, Les Rivières Pourpres, qui étaient géniaux. Sure. Et j'avais un peu délaissé ces derniers temps parce que je trouvais ces romans un tout petit peu trop trash pour moi, un tout petit peu trop gore. Et puis, j'ai été attirée par l'époque dans laquelle se passe ce nouveau thriller. C'est le début des années 80 à Paris et on commence tout juste à parler de ce mystérieux cancer qui frappe avant tout la communauté homosexuelle. Et bien évidemment, c'est le début des années sida. Et c'est une période que je trouve absolument terrifiante et qui trouve vraiment son chemin dans la fiction en ce moment. Et je trouve ça passionnant d'aborder ces années-là. Jean-Christophe Granger, il la recrée à la perfection. Et on plonge vraiment dans le Paris branché, le Paris underground, festif des années 80. Et dans ce milieu gay donc, qui va vivre un véritable cauchemar et qui sera traité par le mépris, par les gouvernements et par les organisations de santé dans le monde entier. On est au début d'une catastrophe et d'une tragédie. Alors l'écrivain pose un regard très vif sur ce monde qui bascule. On y est, on voit l'homophobie, on voit la panique ou le déni des malades. On voit aussi la liberté des corps, des esprits, des communautés qui ont conquis cette liberté et qu'on va leur reprocher puis qu'on va leur faire payer très cher en les soignant pas notamment. Et bien sûr, c'est Jean-Christophe Granger, donc il utilise sa recette de thriller toujours aussi efficace, toujours trash, rien d'insoutenable dans ce roman. parce qu'il a le bon goût, je trouve, de jamais diluer la gravité du sida dans la violence du crime un peu trop graphique, et j'ai trouvé ça fin. Le vrai monstre du livre, c'est le sida, et c'est la façon dont les institutions le laissent se développer sur fond d'homophobie et dont la société le considère. Mais il va quand même se passer évidemment des horreurs, et l'intrigue du livre, c'est la suivante. Un médecin spécialiste des maladies infectieuses qui connaît bien la communauté homosexuelle se rend au chevet d'un de ses patients. C'est un jeune homme sud-américain de 18 ans qui est en train de mourir du sida, et ce jour-là remue ménage dans la chambre de bonne où il vivait. Il a été horriblement torturé et tué. Pourquoi tuer un homme qui va mourir dans quelques jours? Eh bien, trois personnages mènent l'enquête ensemble. Le médecin, un jeune flic dandy un peu sombre, hyper intéressant, et une jeune argentine qui est la meilleure amie de la victime. Tous les trois sont extrêmement bien campés. L'époque, je l'ai dit, elle est merveilleusement rendue, terriblement rendue aussi, et l'enquête est dingue, c'est impossible à lâcher. Et bonne nouvelle, c'est en deux tomes. Le deux tomes sort en même temps que le premier. C'est le roi des ombres. Et donc, chapeau bas, Jean-Christophe Granger. Moi, je suis redevenue totalement accro à cet écrivain.
Merci Élise, on passe maintenant Morgane Cossaru avec vous, Paloma.
Oui, plongeons dans la France rurale et stagnustre des années 30, précisément dans le Doubs. Arsène, fromager de son état, mène une vie modeste avec sa femme, la Micheline, et sa fille Huguette, dite la boiteuse. Mais tout bascule un jour alors qu'il pêche. Arsène découvre une créature mi-femme, mi-serpent, une vouivre. La vouivre, vous savez, cette figure légendaire entend marais et rivières et protégeant jalousement, dit-on, un trésor. Ni une ni deux, il la séquestre dans sa cave entre les meules de comté. Mais voilà, la jolie petite vouivre suscite bientôt toutes les convoitises, pour le meilleur comme pour le pire. C'est là en somme l'intrigue de Visqueuse, un roman de Morgane Cossaru qui sonde des thèmes séculaires comme l'altérité, la violence, la quête d'identité. Hommage aux films de monstres et au folklore français, en prose hybride comme la vouivre, mêlant horreur, fantastique et réalisme. En filigrane, une critique des normes patriarcale et une réhabilitation des freaks, en espèce des femelles tout à fait monstrueuses, questionnant la notion même de marginalité. Alors, on songe à des auteurs, et non des moindres, qui ont campé leur propre vivarium. Marcel Aimé, avec la vouivre, en 1941, où la créature symbolise à la fois la tentation, la sexualité, la connexion à la nature. Ou Georges Sand, Claude Seignolle, Pierre Dubois, son affriolante encyclopédie des lutins, trônant bien sûr, chères auditrices, chers auditeurs, sur toutes vos tables de chevet. Mais Morgane Cossaru réinvente la vouivre. Dans Visqueuse, elle apparaît contemporaine. Entre splendeur et répulsion, forte de notations sensorielles, au gré d'une écriture tactile, presque tégumentaire. Sa peau, mi-écaille, mi-membrane, entre mythique et biologique, ici tout est viscosité, fluidité, mutation tératomorphique, miroir de nos propres métamorphoses et partant de notre finitude. La plume de Cossaru, kinesthésique à gogo, qui transcrit dans la chair le mouvement, danse, fuite, transe, plongée, prose terrienne et olfactive, riche de teintes terreuses, naturalistes, d'où fulgurent des écailles argentines et d'où montent des effluves de glaise, de marais, de sueur et de vulves putrides. Précisons. Visqueuse, parue en octobre 2024 au Diable Vauvert, est illustrée par l'autrice elle-même. Tatoueuse de profession, donc. Mentionnons aussi, toujours au Diable Vauvert, les Nouveaux Déviants, riche anthologie de nouvelles mêlant polar, anticipation, fantastique, érotisme, bref, tout ce qu'on aime, de tout concocté par la même Fée Cossaru et Christophe Siébert.
Merci Paloma, merci Nicolas Le Fleck d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. À se retrouver pour des inédites manchettes apparaître chez Gallimard. À très bientôt donc. Je rappelle le fait divers, l'exposition du Macval, c'est jusqu'au 13 avril. Nicolas Le Fleck, Jean-Patrick Manchette, Écrire Conte, c'est chez Gallimard. Complément nécessaire, Roman Noir de Manchette, c'est en quarto. Sans Soleil de Jean-Christophe Granger en deux tomes, c'est chez Albin Michel. Et Visqueuse de Morgane Cossaru, c'est au Diable Vauvert. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Marie-Claire Oumabadi, Claire Poinsignon, Élise Lépine, Claire-Martin Dugard, Paloma Hidalgo et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons en compagnie de Fabrice Duvels et de Béatrice Dalle à l'occasion de la sortie de Mal d'Aurore. Le film de Fabrice Duvels s'inspirait de l'affaire Dutroux. Et puis Esther Teilhard nous présentera son premier roman, Carne, à paraître chez Pauvert le 15 janvier. Merci d'avoir suivi Mauvais Genre.